Bonjour à tous et à tous. Au micro, David Chemla, qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro de Chronique pour la paix. Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui en présence dans nos studios de Gérard Inger, membre du bureau de J-Call. Gérard a assisté à la visite à Paris la semaine dernière du Premier ministre israélien Netanyahou lors des cérémonies de l'anniversaire du Veldiv. Et c'est à ce titre que j'ai voulu l'inviter, d'une part pour revenir sur cet événement et puis pour nous parler, compte tenu de ce qui s'est passé cette semaine, on va y revenir, des positions vis-à-vis de l'Europe prises par le Premier ministre israélien. Donc bonjour Gérard.
Bonjour.
Alors d'abord revenons sur l'événement lui-même de cette commémoration.
Cette commémoration était intéressante à plus d'un titre. Le premier, c'est le fait que Emmanuel Macron est président de la République et qu'on l'attendait pour cette cérémonie, voir les positions qu'il prendrait. Je dois reconnaître qu'il a fait un excellent discours et un discours qui était marqué même par l'émotion. À certains moments, il a dû s'arrêter. Lorsqu'il parlait du sort des enfants raflés, tellement il était ému. Et la totalité des discours était d'une bonne tenue, y compris d'ailleurs le discours prononcé par Netanyahou, qui n'est pas parti dans des considérations autres que celles qu'il devait évoquer, ce qui fait que la cérémonie était vraiment d'une très bonne tenue.
Alors, il y a eu pas mal de critiques, disons, dans la gauche de la gauche sur l'invitation de Netanyahou. Pensez-vous que c'était une bonne chose qu'il ait été présent ?
Oui, je pense que c'est une bonne chose. D'autres ont dit avec raison que peut-être la Shoah n'aurait pas eu lieu ou bien aurait été bien différente s'il y avait eu un État juif à l'époque. Et je crois qu'à ce titre, c'est très bien que Netanyahou ait été présent. D'autre part, Emmanuel Macron a eu une phrase forte en disant que l'antisionisme était la forme réinventée de l'antisémitisme. D'autres l'avaient dit avant lui,
Manuel Valls,
mais Manuel Valls n'était pas président de la République. Et si François Hollande a eu à peu près la même formule, c'était au dîner du Clif, c'était pas d'une manière aussi publique que Emmanuel Macron a pu le faire.
D'accord. Alors, justement, revenons à la position de Macron vis-à-vis d'Israël et de Netanyahou. Cette invitation, au-delà de l'événement lui-même, que signifie-t-elle ?
Ah ben, c'est la méthode de Macron. Macron a la même tactique. Il invite des dirigeants avec lesquels il est en désaccord dans un cadre qui les flatte d'une certaine manière. Ça a été le cas avec Poutine à Versailles. Ça a été le cas avec Trump pour le défilé du 14 juillet. Et c'est le cas pour Netanyahou. Ce qui permet des prises de position publiques chaleureuses, sinon enthousiastes. Mais en privé, en tête-à-tête, la situation est bien différente et ça permet au président de la République de faire passer les messages qu'il souhaite. Donc c'est une tactique qui peut se révéler payante. Tout le monde était satisfait au Veldiv de voir l'accolade entre Netanyahou et Macron. Derrière, en privé, lors des entretiens, ça n'est certainement pas la même chose puisque la conférence de presse qui a suivi les entretiens a montré que la position de la France sur la solution du conflit au Proche-Orient n'avait pas bougé d'un iota. Arrêt de la colonisation, reconnaissance de deux États vivant côte à côte. On le sait, ce n'est pas exactement la politique de Netanyahou. Et cela, ça a été dit clairement par Emmanuel Macron.
Et partage de Jérusalem aussi.
Partage de Jérusalem, effectivement, souveraineté sur Jérusalem-Est de la partie palestinienne, oui.
Tout à fait. Alors, bon, effectivement, il n'y a rien de nouveau sur la position officielle de la France depuis des années, quels que soient les dirigeants de droite ou de gauche, c'est la position traditionnelle. Donc, c'est important, effectivement, qu'elle ait été répétée. Mais bon, alors, cette séquence française, disons, du voyage de Netanyahou en Europe a été suivie par une autre séquence qui a eu lieu deux jours plus tard en Hongrie, où le Premier ministre israélien a rencontré quatre dirigeants de pays de l'ex, disons, république, enfin des pays de l'Est, disons, de l'Europe, la Pologne, la Croatie,
la Slovaquie et la Hongrie,
excusez-moi. Et donc ces quatre dirigeants auxquels il a tenu un autre discours. Et il s'est trouvé que par un incident technique, alors que la réunion devait se tenir à huis clos, les journalistes ont pu entendre la déclaration de Netanyahou à ces quatre dirigeants européens. Et là, il a eu un autre discours.
Oui, il a eu un autre discours où il a déclaré que la position de l'Union européenne était insensée, crazy, a-t-il dit, dans la mesure où l'Union européenne met en avant toute une série de valeurs et de conditions, dit-il, alors que quand il discute avec les dirigeants indiens et chinois, ces valeurs ne sont jamais mises en avant. D'accord, mais l'Union européenne n'est pas l'Inde ou la Chine. Nous sommes au sein de l'Union des démocraties. Tous les pays sont des démocraties et ceux qui ne le sont pas peuvent s'exposer, ou ceux qui cessent de l'être en partie et deviennent des démocraties illibérales peuvent s'exposer à des sanctions. Ça a été le cas pour la Hongrie, qui a reculé sur beaucoup de domaines. C'est le cas actuellement pour la Pologne, où il y a un conflit ouvert entre l'Union européenne et la Pologne concernant les tribunaux. Mais Netanyahou, lui, considère que l'Union européenne a tort de se mêler de valeurs morales. Bon, il s'est exposé une réponse qui est venue par l'ambassadeur de l'Union à Tel Aviv, qui a répondu que Israël était un pays particulièrement choyé par l'Union européenne, mais qu'il fallait trouver une solution et morale et politique au problème palestinien. Donc là-dessus, la position européenne ne change pas, même si les quatre dirigeants que Netanyahou a rencontrés ont certainement tendu une oreille attentive à ses propos, puisqu'il y a là-dedans beaucoup de démocratie illibérale ou bien d'eurosceptiques.
Oui, notamment Soros, président hongrois, qui a, disons, soutenu, bien qu'il ait mis un peu en veilleuse ces derniers temps, une campagne contre George Soros.
C'est Orban qui a soutenu une campagne contre Soros, avec des relents antisémites, il ne faut pas se le cacher, au point que l'ambassadeur d'Israël en Hongrie avait protesté. Netanyahou a balayé ça d'un revers de main et il est très content d'avoir en Europe de l'Est des gens qui pensent comme lui que l'Union européenne a tort de mettre en avant des règles éthiques.
Alors rappelons qui est George Soros. C'est un, je vous laisse.
Non, George Soros, c'est un financier d'origine hongroise qui aide des organisations de gauche en Israël et ailleurs, et qui a créé une université libre à Budapest, qui connaît un grand succès auprès des étudiants hongrois et même d'autres pays d'Europe de l'Est, ce qui déplaît fortement au Premier ministre Orban, qui lui veut pouvoir contrôler l'ensemble de l'enseignement supérieur dans le pays.
Lequel Orban a lui-même étudié dans cette université,
bien entendu,
dans une vie antérieure, on va dire.
Bien entendu.
Donc effectivement, Netanyahou là-dessus, dans sa campagne contre les ONG israéliennes qui militent pour les droits de l'homme, bon, évidemment, vient apporter son soutien à Orban dans cette campagne qui a des relents antisémites. C'est quand même assez étonnant de voir Israël soutenir une campagne qui a des relents antisémites.
Oui, mais enfin, les Israéliens là-dessus sont... l'État d'Israël est dirigé par des personnes qui, en ce domaine, considèrent qu'il y a d'autres intérêts et on peut discuter même avec des dirigeants qui tiennent des propos antisémites. Les intérêts des États, tels qu'ils sont interprétés souvent, transcendent les divergences idéologiques.
Voilà, donc ça nous ramène à l'Europe qui justement veut essayer, enfin en tout cas sur la direction aujourd'hui, on va dire du tandem Merkel-Macron, si tant est qu'ils arrivent à imprimer une tendance de politique internationale, reste en tout cas sur cette position vis-à-vis du Proche-Orient, solution à deux États, soutien à Israël dans ce cadre-là, mais avec des exigences.
Oui, globalement, sur cette position-là, l'ensemble des pays européens est d'accord, même s'il y a des nuances entre eux. Il y a des pays qui sont plus pro-palestiniens que d'autres, l'Espagne, la Suède, d'autres qui sont plus pro-israéliens, la Tchéquie, l'Allemagne, les Pays-Bas, au milieu, tout un groupe de pays qui considèrent qu'il faut avoir une position équilibrée sur le conflit. Il n'empêche que l'Europe, au-delà de cette position générale, ne parle pas facilement d'une seule voix. Ça sera peut-être plus facile avec le rapprochement entre la France et l'Allemagne, puisque Angela Merkel et Emmanuel Macron s'entendent bien et que la France retrouve un rôle diplomatique qu'elle n'avait plus. On a vu dans différentes études américaines que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, la France a retrouvé une influence réelle compte tenu de la personnalité d'Emmanuel Macron, compte tenu de son sans-faute dans les différentes rencontres internationales et compte tenu également de l'appareil diplomatique français qui reste très puissant et remarquable.
Donc, espérons que cette nouvelle tendance imprimée par le président français aura des conséquences aussi au niveau européen dans les mois à venir.
Bien. Et espérons que ça puisse avoir une influence sur Netanyahou. Ça n'est pas certain, puisqu'il est soumis à des forces politiques de droite et d'extrême droite en Israël. Néanmoins, il a compris que Emmanuel Macron ne changerait pas la position française, même si publiquement elle est plus chaleureuse à l'égard d'Israël qu'elle ne l'a jamais été. Sur le fond, elle reste la même. Après la déception qu'a connue Netanyahou vis-à-vis de Trump, la position américaine n'a pas non plus véritablement changé pour l'instant. On peut espérer que tout ça puisse peser.
Très bien, ben ça sera le mot de la fin. Merci Gérard.
Donc, merci.
À tous nos auditeurs, je dis d'abord Shabbat Shalom et à dans 15 jours.
Shabbat Shalom.